C'est en Actes 16, si vous avez des Bibles qui sont un peu éparpillées sur les chaises. Actes chapitre 16 et les versets 25 et suivants. Nous avons l'habitude de notre église d'ouvrir la Bible parce que nous croyons que c'est par la Bible que Dieu nous parle. Et donc nous voulons nous mettre à l'écoute de ce que Dieu nous dit. Moi je vais prier pour que Dieu nous aide à comprendre sa parole et puis nous allons lire ce passage ensemble. Prions. Notre Père, te louons pour ta parole, la Bible. Merci parce que tu nous parles à travers elle. Donne-nous maintenant de pouvoir comprendre ta parole et de pouvoir être attentifs et que nous puissions connaître ce changement radical comme ce geôlier. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons lire, c'est à propos de deux personnages, Paul et Silas, qui sont en prison parce qu'ils ont parlé aux autres de Jésus, un certain Jésus de Nazareth, qui a vécu 33 ans sur cette terre, a fait des choses extraordinaires, qui a dit qu'il était Dieu venu sur terre. Et puis il est mort sur une croix romaine. Et 3 jours après, il est revenu de la mort. Et puis il est monté au ciel. Et ceux qui l'ont suivi ont proclamé ce message, parce que c'est un message de pardon, de vie éternelle. Mais les Romains de l'époque ne l'aimaient pas, et donc Paul ici là, se trouve en prison. Donc on reprend l'histoire à partir du verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et le prisonnier les entendait. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Jusque-là, la lecture. Donc Paul et Silas, ce ne sont pas des détenus typiques, n'est-ce pas? En train peut-être de se râler par rapport à leurs conditions de vie. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de chanter, de louer Dieu. Les prisonniers, les autres prisonniers ont entendu cela. Et au plein milieu de la nuit, il y a un grand tremblement de terre. Ce qui a fait que toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers se sont rompues. Et on doit se dire, mais ce n'est peut-être pas le hasard ici. Toutes les portes qui s'ouvrent, toutes les chaînes qui se détachent en même temps, mais ça doit être l'intervention de Dieu. Et qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de Paul et Silas à ce moment? La porte est grande ouverte, on n'a plus de chaînes. On aurait couru droit vers la porte de sortie, n'est-ce pas, vers la liberté. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Le geôlier, il craint pour sa vie. Si le prisonnier s'enfuit, lorsque c'est sa garde, il risque sa vie. Et verset 27, nous lisons, le geôlier se réveilla, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais que font Paul et Silas? Ils restent sur place. Et Paul crie au verset 28, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Voilà, qu'est-ce que le geôlier fait? Il demande la lumière, il entre, il se jette tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Le geôlier n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Paul et Silas, tous les autres prisonniers, sont encore dans la prison. Ce n'est pas normal. Et ça veut dire que pour le geôlier, sa vie est sauve. Et c'est à ce moment-là, il pose la question la plus importante que l'on puisse jamais se poser. Une question brûlante. Qu'est-ce qu'il dit? Il demande la question suivante. Il dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvés? Ça, c'est la question clé que nous devons nous poser dans la vie. Parfois, on pense des questions importantes de la vie. Où est-ce que je vais habiter? En ville, en campagne? Vais-je me marier? Avec qui? On aura combien d'enfants? On pense que ce sont des grandes questions. Mais la question cruciale, c'est la question ici. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Mais on pourrait se dire, mais de quoi il parle là? Il a la vie sauve. Ses supérieurs ne vont pas le tuer maintenant. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'être sauvé? Mais c'est sans doute en lien avec le message pour lequel Paul et Silas sont en prison. Car même en prison, ils ont parlé aux autres de Jésus. De Jésus de Nazareth qui est mort à la croix. Et qui disait que l'humanité n'est pas dans un bon état. Nous avons vécu dans le monde que Dieu a créé sans réfléchir à notre Créateur, sans penser à lui. Nous avons voulu vivre dans le monde qu'il nous a donné sans vivre pour lui. Et Dieu dit dans la Bible que c'est grave de faire cela. Nous, on pense que c'est normal de faire ça, mais dans un monde que Dieu a créé, c'est très très grave de rejeter son Créateur. Et du coup, nous méritons le jugement. C'est ça ce que la Bible dit. Un jugement qui aura lieu à la fin de notre vie. Nous serons tous devant Dieu, nous aurons des comptes à rendre pour comment nous avons vécu dans notre vie. Et d'ailleurs, c'est une très bonne chose que Dieu va juger le monde, n'est-ce pas? Sinon, connaît-il de tous ceux qui ont commis des injustices et qui n'ont jamais été punis sur terre? On veut tous qu'il y ait la justice à la fin. Et la bonne nouvelle de la Bible, c'est que la justice sera accomplie parfaitement par Dieu. Mais souvent, nous divisons l'humanité entre les bons, comme, je ne sais pas, Mère Teresa, ou ceux qui donnent beaucoup d'argent aux pauvres, des choses comme ça, et les mauvais, comme Hitler, Staline, Dutroux, et ainsi de suite. Et nous nous plaçons quelque part entre les deux. On n'est pas comme Mère Thérèse, mais on n'est pas non plus comme Dutroux. On se met au milieu. Et si Dieu doit juger et condamner les personnes, ils ne vont pas le faire pour nous. Peut-être pour les personnes juste en dessous de nous. Mais nous, ça va encore. C'est souvent comme ça qu'on pense, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Et ce n'est pas ce qu'a compris le geôlier non plus. Il voyait qu'il avait besoin d'être sauvé du jugement de Dieu. Lui était assez respectable, il avait un bon boulot, travaillait pour les Romains. Mais lui, il voyait qu'il avait besoin d'être sauvé du jugement de Dieu, de la condamnation divine qui débouche sur un châtiment éternel. Et c'est cela qui explique sa question brûlante. Que faut-il que je fasse pour être sauvé de cela? Il savait qu'il devait être sauvé à tout prix du jugement de Dieu. Et on doit se poser la question, est-ce que nous sommes conscients nous-mêmes? Nous avons besoin d'être sauvés du jugement de Dieu. On sait si on est malade, si on reçoit le diagnostic du médecin qui nous dit qu'on est malade, on peut suivre un traitement. Mais parfois, la maladie ne montre pas de signes très visibles et tangibles. On peut être très malade à l'intérieur sans le savoir. Et du coup, lorsqu'on découvre cela, parfois, malheureusement, c'est trop tard. Et la Bible, en quelque sorte, est en train de nous avertir en disant que tout ne va pas bien chez nous en tant qu'être humain. Nous sommes malades à l'intérieur. Nous sommes centrés sur nous-mêmes et non pas sur Dieu et sur les autres. Et si nous sommes honnêtes, je pense qu'on doit l'avouer. Les fautes que l'on voit très facilement chez les autres, est-ce que les autres ne peuvent pas les voir chez nous? Pourquoi est-ce qu'on ferme la porte à clé? J'imagine ce matin à la maison, en quittant, pourquoi est-ce que vous avez fermé ça à clé? C'est parce que l'humain n'est pas fondamentalement bon. On ne fait pas confiance aux autres, n'est-ce pas? Il y aura peut-être quelqu'un qui va se glisser pour voler nos affaires. Sur la route en train de conduire, on est frustré par les autres, n'est-ce pas? Qui viennent juste devant nous. Et puis, 2 minutes plus tard, on fait exactement la même chose à quelqu'un d'autre. On pointe le doigt facilement chez les autres. Mais lorsqu'on pointe le doigt chez les autres, il y a des doigts qui se pointent vers nous, n'est-ce pas? Nous sommes coupables devant un Dieu qui voit tout, qui sait tout et qui va nous juger. Et donc la question cruciale, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? La question brûlante. Mais nous voyons deuxièmement, versets 31-32, si on peut projeter ça, Kuhn, ce serait chouette. Une réponse réconfortante. S'il y a le jugement de Dieu devant nous, et on demande aux gens, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce jugement? C'est frappant, là, on va écouter les témoignages de nos baptisés tout à l'heure. Il y en avait qui ont grandi dans un arrière-plan assez religieux, dans l'Église catholique. Ils avaient entendu que pour échapper au jugement de Dieu, il fallait faire telle ou telle bonne action. Il fallait aller à l'église, se confesser au prêtre, il ne fallait pas faire des bêtises, et comme ça Dieu allait nous sauver. Mais c'est facilement comme ça qu'on pense, n'est-ce pas? Si j'arrive à faire plus de bien que de mal, j'aurai ma place auprès de Dieu. Mais ce n'est pas ça la réponse que donne la Bible. C'est impossible de faire suffisamment de bien pour atteindre les exigences d'un Dieu parfait. Mais que pouvons-nous faire alors? Est-ce qu'on est perdu d'office? Non, parce que Dieu, dans son amour, a envoyé un sauveur, quelqu'un pour nous sauver du jugement. Quelqu'un qui a vécu la vie parfaite que nous n'aurions jamais pu vivre, et puis qui est mort sur une croix romaine, et qui a pris sur lui le jugement de Dieu que nous méritons, pour prendre notre place afin de nous libérer et de nous donner la vie éternelle. C'est Jésus-Christ, c'est lui qui s'est donné à la croix, qui est ressuscité pour régner en tant que roi. Et c'est pour cela que la réponse que donne Paul, qu'est-ce qu'il dit, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. » Tout ce qu'on doit faire, c'est croire à Jésus. C'est croire au Jésus. Au Seigneur Jésus. C'est, dans un sens, on pourrait dire, mais c'est trop facile ça. C'est trop facile. Moi, je ne dois rien faire pour gagner une place au paradis. C'est pas, je ne dois pas cocher des cases, je ne dois pas aller au pèlerinage, je ne dois pas... Non. Tout ce que nous devons faire, c'est croire en Jésus. Jésus a tout fait en payant par sa mort à la croix notre dette. Et nous devons juste recevoir ce qu'il a fait, les mains vides. C'est ça la foi, c'est ça croire. Recevoir ce qu'il nous donne. Avec les mains vides. Nous, on n'apporte rien pour mériter une place dans le royaume de Dieu. C'est lui qui nous donne 100%. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais ce n'est pas automatique, juste parce que Jésus est mort à la croix. Peut-être que vous connaissez la chanson de Michel Polnareff. On ira tous au paradis. Voilà, j'ai regardé ça encore à YouTube hier. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, on n'ira pas tous au paradis. Mais tout ce que nous devons faire pour aller au paradis, c'est accepter ce que Jésus a fait à notre place. C'est de voir que quelqu'un d'autre a pris le châtiment que nous méritons. Quelqu'un d'autre a vécu la vie parfaite à notre place pour nous donner une espérance. La vie sauve. Pas seulement maintenant, mais pour l'éternité. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Quel soulagement! Quelle réponse réconfortante. Et on doit croire que Jésus est Seigneur aussi. Quoi au Seigneur Jésus? Parce qu'on doit changer de vie avant. Mais nous vivons tous pour nous-mêmes, par nature. Nous sommes au centre de notre monde. Lorsqu'on se lève le matin, on pense, mais qu'est-ce que moi je vais faire pour moi? Si vous avez une photo peut-être de l'école, avec la classe, quelle est la première personne vers laquelle vos yeux se dirigent sur la photo? Mais c'est vous-même. Bien évidemment, on s'occupe de nous-mêmes. Et lorsqu'on croit en Jésus, on est en train de dire, mais jusque là dans ma vie, j'ai vécu pour moi-même et non pas pour toi, Dieu. Et je te demande pardon pour cela. Et je vais te suivre en tant que mon chef. C'est toi qui seras le chef maintenant de ma vie. Jésus, sois le chef de ma vie. C'est ça, être chrétien. Croire en Jésus et le suivre comme notre maître. C'est ça ce qu'a fait Jemima, Nicole, Denis et Marie-Claire. Donc, une question brûlante. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Une réponse réconfortante. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et nous voyons une décision réjouissante à la fin de notre passage. Une décision réjouissante. Paul a expliqué la bonne nouvelle de la mort, la résurrection de Jésus qui nous offre le pardon de nos fautes, la vie éternelle. Et nous voyons verset 34 que le geôlier a cru en Dieu. Il a cru en Jésus-Christ. Il est sauvé du jugement de Dieu. Quelle bonne nouvelle! Et nous voyons qu'il le sert à manger. Il s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. C'est réjouissant de faire confiance à Jésus. Une nouvelle vie commence qui ne s'arrêtera pas à la mort, mais qui continuera jusqu'à l'éternité. Et nous nous réjouissons avec nos quatre baptisés aujourd'hui. Et nous voyons que le geôlier a vraiment changé aussi. Au verset 33, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Paul et Silas avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies. Alors, qu'est-ce qu'il faisait avant? C'était le geôlier qui les avait incarcérés avec les chaînes. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il lave leurs pieds. Sa vie a totalement changé. Totalement changé. Un bouleversement dans sa vie. Et c'est ça ce qui se passe lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'on place sa foi en Jésus. On veut suivre Jésus et vivre pour lui, comme jamais auparavant. Je me rappelle, j'étais à l'université avec quelqu'un qui était scientifique, très intelligent, et un athée fervent. Et il venait à des moments comme celui-ci où il a entendu parler du message de Jésus. Il l'a rejeté, vraiment, mais violemment. Peut-être vous rejetez intérieurement aussi, mais de quoi il parle, ce monsieur? Il l'a rejeté violemment. Il a crié sur les orateurs et des choses comme ça. Mais quelques années plus tard, on a appris qu'il est devenu croyant en Jésus-Christ. Et il essaie de persuader les autres qu'ils doivent aussi se tourner vers Jésus comme leur maître et leur sauveur. Quel changement radical dans la vie de quelqu'un. Je connais un autre ami à l'université, il avait un jumeau. Ils étaient des vrais jumeaux. Donc, identique à tous égards. Mais l'un d'eux a pris la décision de suivre Jésus comme son maître, et l'autre pas. Et avant, ils étaient quasi identiques à tous égards. Mais on voyait de plus en plus comment Ned, mon ami, voulait mettre Jésus au centre de sa vie, tandis que son frère ne voulait pas. C'est un changement radical, ça fait tout dans notre vie. Les baptisés, c'est un jour de fête ce matin, mais c'est un premier jour dans un sens d'une vie nouvelle avec Jésus comme votre chef. Ça va tout changer. J'espère que vous êtes prêts. Mais pour nous tous, si nous voulons avoir la vie éternelle, si nous voulons vivre éternellement, nous devons être prêts à renoncer à la direction de notre vie. En disant, je te fais confiance Jésus, toi tu sais mieux que moi comment je devrais vivre. Et on place sa confiance en Jésus. Je peux dire personnellement, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise dans ma vie. Je ne le regretterai jamais. Mais dans la question brûlante, reste d'actualité pour chacun d'entre nous ici ce matin. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Est-ce qu'on est conscient que nous devons être sauvés du jugement de Dieu? Ensuite vient la réponse réconfortante, mais tout ce que nous devons faire, c'est croire au Seigneur Jésus, ce qu'il a fait sur la croix pour nous sauver. Et enfin, la décision réjouissante, est-ce qu'on va faire cela? Est-ce qu'on va placer sa foi en Jésus? Est-ce qu'on va le suivre comme notre maître pour le restant de nos jours ici-bas et pour l'éternité dans son royaume? Peut-être tout cela est très nouveau pour vous, c'est la première fois que vous entendez cela. Mais venez alors mardi soir, nous organisons ce qu'on appelle un parcours découverte de la foi, des séances assez conviviales, on étudie quelques courts passages de la vie de Jésus ensemble, on pose des questions qu'on a, et c'est très utile. Je sais que certains de nos baptisés ont trouvé ça utile pour mieux comprendre la foi chrétienne et placer eux-mêmes leur confiance en Jésus. Donc, si vous voulez venir mardi soir, ce serait avec grand plaisir, ici à 19h30. Ou bien vous savez tout cela. Vous n'avez jamais pris la décision de placer votre confiance en Jésus. Vous savez que vous devez à tout prix être sauvé. Vous savez que tout ce qu'il faut, c'est croire au Seigneur Jésus, placer sa confiance en lui et vivre avec lui comme votre maître. Mais vous ne l'avez jamais fait. Peut-être ce matin, il y a quelqu'un dans la salle pour qui ce serait approprié. Et nous allons terminer donc en priant ensemble. Et si ce serait la bonne chose à faire pour vous, vous pouvez répéter ce que j'ai dit dans votre cœur. Si ce n'est pas encore pour vous, vous pouvez juste entendre, écouter et dire Amen à la fin. Mais prions ensemble. Seigneur Dieu, nous voyons dans ce passage que nous devons être sauvés de ton jugement. Et nous te demandons pardon pour la façon dont nous avons vécu dans ton monde sans t'avoir comme notre roi. Et nous te remercions d'avoir envoyé Jésus, ton Fils dans le monde, pour vivre la vie parfaite, pour mourir à la croix, pour prendre le châtiment que moi je mérite, afin de me pardonner et me donner la vie éternelle. Je fais confiance à Jésus. Je le suis comme mon maître tous les jours de ma vie et en éternité. Amen. C'est